L'écho des glous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
Bonsoir et bienvenue dans le, je sais même plus combien, 236e numéro de l'écho des glous. Au bout d'un moment, on va finir par arrêter de compter. Donc ce soir, Alexandre me fait à nouveau faux bond. Il est toujours en vacances celui-là, c'est très pratique pour lui. Il va quand même préparer une petite liste de morceaux de musique et par contre cette fois-ci, il n'a pas eu le temps de préparer d'actualité. Donc, ça va être pour ma pomme, vous aurez que moi ce soir. Donc on va commencer, comme d'habitude, on va faire un petit tour des actualités des deux semaines écoulées. Donc cette fois-ci, c'était vraiment que deux semaines, puisque pour une fois, on essaye de reprendre notre vrai programme d'émission. Et donc on va commencer par quelques nouvelles logicielles diverses et variées. Alors on va commencer par une bonne nouvelle. Donc j'ai mis dans la catégorie logiciel, c'est assez important pour les gens qui utilisent des iPhone et autres appareils fermés d'Apple. Ça se confirme, l'Union européenne est bien en train de pousser à travers le DMA, donc le Digital Market Act, je crois, quelque chose comme ça. Donc une directive européenne pour le marché du numérique. Et donc l'objectif là-dedans, ce qu'ils ont en tête, c'est d'imposer à Apple de donner accès à tous les développeurs sur leur plateforme à l'ensemble des fonctionnalités matérielles et logicielles. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, hein, pourquoi un développeur n'aurait pas accès aux fonctionnalités matérielles et logicielles alors qu'elles sont là. Et pourtant, c'est un levier qui est beaucoup utilisé par Apple, puisque ça leur permet d'être les seuls à pouvoir vendre une solution de paiement sur les e-bidules, donc que ce soit iPhone ou iPad ou autre, les appareils d'Apple. Vous ne pouvez pas utiliser un autre système de paiement, c'est interdit. La fonctionnalité n'est pas disponible en dehors d'Apple. Seul Apple peut l'utiliser, donc la fonctionnalité de sans contact. Pas spécifiquement paiement, hein. D'ailleurs la partie sans contact de l'iPhone est verrouillée. De même, pour certaines fonctionnalités logicielles, j'ai souvenir d'avoir déjà vu des entreprises annoncer des accords avec Apple pour avoir le droit d'utiliser certaines fonctionnalités. Parce que Apple décide au cas par cas à la tronche du client qui a le droit d'utiliser ou non telle fonctionnalité. Donc ça peut être une bonne chose, effectivement, que la Commission européenne mette son nez dedans et dise au bout d'un moment, si on veut vraiment un monde comme ça, on veut pas un monde capitaliste ou de la libre concurrence, c'est pas le paradis sur Terre, mais tant qu'à prétendre y être, autant le faire correctement et du coup interdire ce genre de manœuvre à Apple. Donc à suivre, parce que le DMA n'est toujours pas entré n'est toujours pas en vigueur, hein. On est très loin encore de l'avoir, il y en a encore pour plusieurs années malheureusement. Mais ça pourrait être une bonne chose. Après, ce qui va être intéressant du coup, ça va être de voir la façon dont ça va être traité, puisqu'on a déjà eu premier prémisse avec Apple aux Pays-Bas qui a autorisé pour les Pays-Bas et pour un certain type d'application seulement le droit d'avoir un système de paiement autre qu'Apple. Donc pour les abonnements au sein d'application, hein, je parle pas de paiement avec le téléphone. Ils l'ont autorisé vraiment que sur un truc hyper restreint et sur un marché très précis. Donc est-ce que ici ça sera la même chose? Du coup, est-ce qu'on aura des applications sur ces appareils qui ne marcheront bien qu'en Europe, ou est-ce que il y aura des applications qui seront disponibles qu'en Europe, ou comment ça va se passer? Ça sera intéressant de voir ça. En tout cas, j'ai un doute sur le fait qu'ils se disent ah zut, on doit l'ouvrir pour ce marché-là, on va l'ouvrir à tout le monde. Donc petite affaire à suivre. Une vraie nouvelle logicielle pour le coup. Par contre, maintenant, on va parler un peu de sortie logicielle. On a Inkscape 1.2 qui est sorti. Alors Inkscape, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un logiciel libre de dessin vectoriel. Pas de dessin. Alors, il faut bien faire la distinction entre dessin vectoriel et dessin par pixel. Donc le dessin par pixel, mettons, le plus connu, ça reste Paint, parce que tout le monde l'a eu sur un ordinateur sous Windows. Paint et ses multiples concurrents, où en gros on a un canevas et puis on colorie, on peut aller jusqu'à colorier pixel par pixel. C'est, ça revient aussi à faire, c'est la même chose quand on fait de la manipulation d'image, on manipule un ensemble de pixels. Là, le dessin vectoriel, l'idée c'est, on ne représente pas des pixels, on a des éléments graphiques. Donc on va avoir par exemple un trait dessiné à l'écran, ça va pas être j'allume le pixel 1, 1, 2, 2, 3, 3 et ça fait une diagonale, non, c'est j'ai un trait de 1, 1 à 3, 3. Et puis ben, si on veut agrandir l'image, et ben, le trait il sera mis à l'échelle correctement et surtout il n'y aura pas d'effet de pixelisation, c'est l'intérêt du dessin vectoriel. Et donc Inkscape c'est le logiciel libre d'édition d'images vectorielles. Il n'y en a pas des masses de concurrents à ma connaissance, il n'y en a quasiment aucun d'autre. C'est l'un des plus complets du coup, forcément, avec énormément de fonctionnalités autour du SVG. Il est capable même de prendre des images non vectorielles, les vectoriser. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, donc c'est un petit logiciel qui est assez intéressant. Alors évidemment, il faut être graphiste pour faire des beaux trucs avec, hein. Ça ne va pas faire le travail à ma place, malheureusement, donc je ne peut pas trop faire de belles choses avec Inkscape, mais ça reste un très bon logiciel, donc n'hésitez pas à regarder. Si vous l'avez déjà utilisé ou si vous en avez eu une mauvaise expérience, bah, n'hésitez pas à réessayer, ça vaut toujours le coup de redonner une chance aux outils. Donc il y a eu des améliorations, notamment aussi sur la gestion des textes, qui permet de faire des documents beaucoup plus complets. Notamment, je pense que pour réaliser par exemple des affiches, ça devient plus intéressant vu les corrections qu'il y a eu sur la gestion des textes. Donc n'hésitez pas à regarder et à jeter un œil si vous l'aviez déjà utilisé et si vous aviez éventuellement été déçu. Donc Inkscape, qui est disponible sous Windows, il me semble aussi. Donc en tout cas pour les utilisateurs Linux, il en a toutes les bonnes distributions Linux. Et pour s'amuser un petit peu, parce qu'il n'y a pas tant de sorties logicielles que ça en deux semaines, mais du coup, deux petites pistes logicielles que j'ai vues qui sont assez amusantes. Alors c'est un point qui m'a toujours beaucoup amusé dans le monde du langage de programmation Python. Les gens disaient ouais mais Python c'est lent, mais c'est normal, c'est parce que Python ben c'est interprété et puis on peut faire plein de trucs magiques dans tous les sens, donc forcément c'est plus lent. Et donc là, il y a un projet qui a enfin été démarré avec des grosses pointures qui sont mises dedans, un projet financé en plus en partie par Microsoft, parce que Microsoft utilise Python dans le cadre d'Azure, il me semble. Et donc le projet, c'est Faster Python, et il y a des premiers éléments qui ont été intégrés donc dans la version de Python qui sortira courant de l'année, donc la future version 3.11, mais les résultats des améliorations sont assez amusants, puisque certains tests vont jusqu'à être deux fois plus rapides, sans avoir rien changé au langage, au test lui-même, etc. C'est, ils ont améliorer les performances jusqu'à un facteur 2. Ils ont divisé par 2 le temps d'exécution. Ce qui est intéressant, c'est que il y a deux éléments qui sont intéressants pour tout le monde à voir là-dedans. C'est que déjà, si c'est deux fois plus rapide, ça veut dire qu'on va consommer deux fois moins d'énergie, puisque on va avoir besoin d'utiliser le processeur pendant deux fois moins longtemps. Donc ça, c'est très intéressant, surtout du Python, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui tournent en permanence, et c'est pas une bonne idée, je trouve, à cause de ces problèmes de performance. Donc c'est une bonne nouvelle pour la planète au final. Faisons un peu d'écologie, optimisons les programmes qui tournent, plutôt que de s'amuser à les réécrire entièrement, ce qui consomme plus d'énergie, ou augmenter les ressources matérielles. Là, en fait, il y avait des solutions assez simples qui étaient disponibles. Alors pour les utilisateurs lambda, c'est moins facile de juger ça, parce qu'en général, on ne le voit pas forcément sur un programme. Déjà, on n'a pas beaucoup de programmes qui tournent sur nos machines qui sont écrits directement en Python à cause de ces problèmes de performance. Et c'est là où ça pourrait peut-être être intéressant, c'est que peut-être qu'on verra un peu plus de programmes écrits en Python, ce qui n'est pas forcément inintéressant pour les autres avantages du langage. Donc à suivre, mais je trouve ça toujours amusant de pointer le... Pendant des années, ils ont dit non, c'est pas possible d'aller plus vite. Et puis là, c'est deux fois plus rapide. Non, mais on a travaillé, c'est bien. Mais vous pouviez travailler avant aussi, ou il aurait pu y avoir un effort avant, vu l'impact massif que ça pourra avoir. Enfin, bon, pas trop, on va pas trop critiquer, au moins ils l'ont fait. Et une autre sortie logicielle, alors elle, je regrette qu'Alexandre soit pas là, parce que je suis même pas sûr qu'il ait souvenir de ce logiciel-là. Alors, quelques les plus anciens des anciens se souviendront peut-être de Lotus 1-2-3, qui est l'un des premier tableur au monde. C'est vraiment l'un des premiers tableurs qui a été développé sur ordinateur. Et là, aujourd'hui, en 2022, donc plusieurs décennies, je crois que c'est plus de 30 ans depuis l'abandon du logiciel, ce logiciel est décédé avant que Linux n'existe. Et il y a quelqu'un qui s'est amusé à porter le logiciel Lotus 1.2.3 sous Linux. Non pas à faire, pas dans un émulateur, hein, mais à le faire tourner tel quel sous Linux. En prenant, alors c'était en plus un logiciel qui était propriétaire, donc il a fallu qu'il trouve une copie pirate. Il a trouvé une copie pirate qui était faite pour certains systèmes Unix, et puis il a réussi à bidouiller la chose. Alors il y a un article pour les plus techniciens et ceux qui aiment l'archéologie informatique, je vous invite à chercher, hein, Lotus 1.2.3 for Linux. Mais du coup, c'est juste, ça me fait beaucoup rire, et c'est intéressant de voir ce genre de mouvement aussi en se disant. Peut-être qu'à l'avenir, dans 20 ans, dans 30 ans, il faudra faire ça pour nos logiciels de maintenant, juste parce qu'on aura des fichiers à un format verrouillé qu'on devra, on voudra lire un vieux document, une vieille image, et puis on n'a plus de lecteur compatible, et peut-être que dans 20 ou 30 ans, il faudra faire de l'archéologie dans ce sens-là. En tout cas, je trouve ça assez amusant de voir que quelqu'un a fait fonctionner ce vieux logiciel qui est sorti avant Linux, qui est apparu avant Linux, quelqu'un l'a fait marcher sous Linux. Je trouve que c'est un bel exploit et ça mérite d'être mentionné. Sur ce, on va écouter un premier morceau de musique. On va écouter Rocketman de Michael Ellis, toujours sur Radio Campus 106.6. Vous écoutez les codes et nous et on se retrouve dans 3 minutes 30. A tout de suite.
My rocket on top of my own game. I'm never stopping. I'm taking my life into my own hands. Go to space and beyond, where reality ends. To the worlds out there no one else has gone. This is my rocket. Remaining self-esteem goes in the bucket. Go where nobody knows. Soon as I see a word, you'd be out of your clothes. So come on and me, show me some of your skin. I take what I want and then I be in the wind. I am a rocket man. This is my rocket. We're counting down from 10 and then I rocket. I may be vicious, but at least I'm not your mom. One in a thousand petty, yeah. Once I'm gone, once I'm gone, once I'm gone.
C'était Rocketman de Michael Ellis, toujours sur Radio Campus 106,6. Vous écoutez les Codes Gnous et c'est la deuxième partie des actualités. Après avoir parlé de logiciels, on va parler un petit peu de vie privée sur Internet. On n'a pas trop de nouvelles de sécurité cette semaine, donc j'avais pas envie de faire la tournée des nouveautés de Chromium 225 et Firefox 99. Même pas, non, on a passé le son aussi pour lui. Et du coup, on va parler un petit peu sécurité et vie privée, vie privée surtout. On a plein de sujets rigolos. On va commencer par un premier. Alors, vous entendez peut-être, pour une fois, c'est un sujet qui n'est pas passé, enfin que j'ai pas vu passer sur différents flux RSS, que j'ai vu passer dans un journal papier, hein, pour ne pas nommer le canard enchaîné, qui reprend une enquête du Figaro. Pour moi, c'est une première qu'on cite une enquête du Figaro dans cette émission. Et donc, qui relate une condamnation d'une habitante du Missouri. Elle a été accusée en 2018 d'avoir fait passer un avortement hors délai pour une fausse couche et elle a été poursuivie pour meurtre au second degré. Et la justice a pu établir les faits avec un élément tout simple. L'accusée avait sur son téléphone portable, sur son smartphone plus précisément, elle avait fait une recherche pour l'achat d'une pilule abortive. Voilà. Donc je vous invite à réfléchir un petit peu du coup sur ce toutes les données que vous laissez sur votre téléphone et l'impact que ça a quand des gouvernements décident de... Bon, déjà, aux États-Unis, la protection des données personnelles, non. Clairement, l'État a beaucoup plus de liberté, on va dire, pour aller consulter ces données. Du coup, ce qui est un peu inquiétant dans le sens où toutes nos données quasiment se font héberger là-bas parce que bah, c'est tellement plus simple, hein, voyons. Et puis l'Union Européenne va tenter de mettre de faire des accords parce que c'est bon pour le commerce, c'est bon pour la sainte croissance. Et donc aux États-Unis, avec l'arrivée en plus possiblement de l'interdiction de l'avortement dans la majorité des États républicains, ça pourrait devenir assez compliqué. Donc les associations là-bas sur place, elles en sont à donner des conseils pour cacher les traces, c'est-à-dire faire ses recherches en navigation privée. Non, c'est pas suffisant, clairement. Si vous êtes face à quelqu'un qui veut... face à ça, la navigation privée, c'est insuffisant. Acheter en liquide un téléphone prépayé sans activer la géolocalisation et faire la recherche dessus. Bon, on va pas parler du désastre écologique si tout le monde se met à devoir acheter des burner phones comme ça. Mais l'un des soucis, c'est que, attention, aux caméras de surveillance dans les rues. Ça, c'est le canard enchaîné qui le précise. Et effectivement, c'est un vrai problème parce que dans la plupart des commerces ou autres, si vous achetez un téléphone comme ça, les commerces vont avoir des caméras de sécurité. Dans la rue, il va y avoir des caméras aussi où on peut pouvoir voir qui a passé l'appel, qui a fait la recherche, etc. Et là-dessus, c'est aussi la conclusion du canard enchaîné. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. À quel moment on entend les Google, Facebook et autres dire « Ah, c'est scandaleux, on n'arrête pas de nous demander des informations sur la vie privée des gens. » Parce que Apple est concerné aussi, puisque le smartphone, c'était peut-être un iPhone. Il y a plus de la moitié des gens aux États-Unis qui sont sur des iPhones, il me semble. Si c'était un iPhone, Apple a collaboré. Et Apple ne va pas dire dans la rue, ne va pas dire dans ses communications « Non, mais on aimerait bien ne pas avoir à collaborer avec l'État pour avec les États liberticides et encore... » Enfin, je ne sais pas quel terme, d'ailleurs, on peut utiliser pour désigner les États qui régressent comme ça. Bref, les États anti-avortement nous demandent des données pour essayer d'aller condamner des gens qui ont juste voulu avorter. Donc ce qui est conforme à la Constitution américaine, en théorie. Bref, on les entend pas, parce que c'est un sujet un peu sensible peut-être, je ne sais pas, mais réfléchissez à deux fois du coup avec vos données, qu'est-ce qui pourrait se passer d'équivalent en Europe. Alors en Europe on a quand même un peu plus de protection et moins de collaboration entre l'État et les géants du numérique, mais on a déjà une collaboration pour le fisc sur la détection de piscine, donc pourquoi pas aller plus loin un jour. À suivre, du coup. Aux États-Unis, du coup, on n'en parlera sûrement pas ici, hein, s'ils cassent l'avortement, mais je pense qu'on entendra malheureusement beaucoup parler si ça venait à arriver. Revenons un petit peu plus en Europe. On a la Quadrature du Net qui a lancé une nouvelle plainte collective dans son, c'est dans le cadre de l'initiative Technopolis de la Quadrature du Net, donc sur le site technopolis.fr. Et donc, la plainte collective, je vous la lis. L'espace public est surveillé par 1 million de caméras, on vient d'en parler, qui de plus en plus sont équipées de logiciels visant à détecter des comportements indésirables. La police utilise la reconnaissance faciale 1600 fois par jour à partir des 8 millions de visages du fichier TAGE et enregistre dans le fichier TES le visage de toute personne demandant un passeport ou une carte d'identité. Donc l'objectif de la plainte, c'est de mandater la Quadrature du Net pour attaquer devant la CNIL le ministère de l'Intérieur français qui combine ces images, ces caméras, ce fichage et ces logiciels pour imposer une surveillance totale de nos rues. Donc je vous invite vraiment à tout lire, hein, parce qu'il y a l'ensemble des éléments. Donc le TAGE, c'est le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le TES, c'est le fichier des titres électroniques sécurisés. Donc si vous avez un passeport ou une carte d'identité qui date d'après 2016, vous êtes dedans, vous êtes fiché. Et donc, avec la reconnaissance faciale qui est utilisée possiblement depuis 2012, alors depuis 2012, elle est faite uniquement dans le cadre de la reconnaissance avec du croisement avec le TAGE. Et du coup, je cite toujours la Quadrature du Net, en 2021, elle réalisait 1600 opérations de reconnaissance faciale par jour en dehors de tout cadre légal. Donc, évidemment, détection automatisée de comportement, hein, vive l'intelligence artificielle. Hein. Et donc, ben, je vous invite à acheter un œil parce que c'est quand même assez inquiétant, quoi. On dit que c'est beaucoup de gens craignent que l'avenir ce soit ça, mais c'est déjà en fait un peu le présent. Donc, ben, je vous invite à relayer cet appel. Donc, je vous rappelle le titre technopolis.fr, technopolice.fr, et à suivre. Hein. Une autre de vie privée plus réjouissante, puisque nous allons parler de pornographie. Oui, c'est le sujet récurrent de ces derniers temps. Alors là, on a une petite totale, du coup, pour cette semaine, enfin pour ces deux dernières semaines, on a un petit peu de tout. Parce que ils sont nombreux à taper sur la pornographie et à taper dans tous les sens pour essayer d'obtenir quelque chose. Donc on va faire, pas dans l'ordre chronologique, mais on va faire les plus drôles d'abord. Je sais pas encore dans quel ordre je vais le faire. Allez, on va commencer par ceux-là, hein, les cathos intégristes, hein, je les aime aussi tellement, ces gens-là. Donc, Civitas a aussi réclamé que l'ARCOM agisse contre le porno en ligne. Donc, petit rappel, ils se basent sur le fait déjà que l'expression de contenu pornographique soit floue. Hein, ils s'amusent beaucoup pour imposer différentes choses et dire non mais il faut interdire, il faut mieux contrôler l'âge sur les sites, ce qui est déjà un autre truc à côté qui est géré par l'État, donc je comprends encore pas pourquoi ils font ça en plus. Et du coup, ben là, ils se sont fait, alors de mémoire, eux, donc réclament, le Civitas réclame à l'ARCOM, donc le nouveau CSA, de bloquer un ensemble de sites, donc Xvidéo, Pornhub, Jackie et Michel, ce genre de sites. Il y en a une dizaine, on dirait. Et donc, exiger soit un vrai contrôle d'âge, qu'on ne sait toujours pas comment faire, on en parle après, ou lancer une procédure de blocage. Mais donc, l'ARCOM étant déjà sur le sujet, j'ai pas compris pourquoi ils viennent faire ça et pourquoi ils s'excitent à faire ça. J'ai pas compris. Donc, à suivre. Ah oui. Autre élément qui a eu lieu une semaine avant. Et lui, il m'a fait beaucoup rire. Donc, les associations e-enfance et la voix de l'enfant ont demandé, dont on en avait parlé déjà l'année dernière, ils ont demandé par les FAI le blocage de l'accès à 9 sites pornographiques spécifiques. En disant, non, mais ces sites, ils ne vérifient pas l'âge correctement. Et ben là, on leur a dit, donc le jugement, ils avaient été déboutés à l'époque, et la cour d'appel a confirmé. Donc ils ont été déboutés, pourquoi ? Ben tout simplement parce que ils n'ont pas assigné directement en justice les sites incriminés. Les sites incriminés, ils sont joignables, ils ont des adresses en Europe, et du coup, vous pouvez les contacter en fait, plutôt que de ne pas de tenter de bloquer auprès des fournisseurs d'accès internet directement. Donc à suivre, enfin à suivre. Ben là, il n'y a rien à suivre du coup sur ce sujet-là, puisque ben, on leur a dit contacter l'éditeur d'abord. Et c'est la loi. Effectivement, la loi. Les FAI ne sont pas responsables, donc il ne faut pas c'est demander aux FAI de bloquer un site. Ben, c'est ne pas respecter la loi, c'est ne pas respecter le contradictoire. C'est... Il y a tout un ensemble de règles. C'est pas compliqué quand même. Et du coup, ben, ils se sont fait rejeter assez méchamment, et tant mieux. J'ai juste retrouvé la citation exacte du jugement. Oh, non, c'est chiant à dire. Oh, désolé, les textes juridiques, les textes de jugement, de justice, c'est un peu difficile à lire quand même. Je vais vous épargner ça avec ma diction pourrie. Et une dernière qui date de cette semaine, c'est l'ARCOM, donc qui devait défendre auprès du tribunal judiciaire de Paris son blocage de de différents sites pornographiques, donc Pornhub et quelques autres. Et donc, il y avait une audience le 24 mai au tribunal judiciaire de Paris, mais avec assignation en justice, une assignation adressée aux financeurs d'accès pour leur dire de bloquer les sites. Et il y avait une procédure accélérée. Et du coup, ils avaient jusqu'à la veille pour placer cette l'assignation, pour assigner les fournisseurs d'accès à Internet. Or, ils ne les ont assignés que le 24 mai au matin. Donc, pas la veille. Donc, ça fait un report de plusieurs semaines. C'est tout. Et voilà. Là, ils sont passés pour des cons. Et du côté de la défense, donc du côté des avocats des sites pornographiques, a priori, ils réclament le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité, une question à la Cour de justice de l'Union européenne, et ils réclament un sursis à statuer. Donc, c'est pas prêt d'arriver. Et pour noter, la procédure a commencé. Alors, les premières pierres de la procédure accélérée ont été posées lors de la saisine de l'autorité par les associations COFRAD, UNAF et Open. La saisine a eu lieu le 27 novembre 2020. On est à un an et demi. J'aime beaucoup les procédures accélérées. Et pour finir un petit peu sur le porno en ligne. Donc oui, on n'est plus très loin d'ailleurs. Hein. Il a été plus ou moins validé Bon, pardon. Excusez-moi, je m'emballe. C'est un autre élément qui a été validé. Excusez-moi, je cafouille. Donc, sur le contrôle d'âge en ligne, il y a le pôle d'expertise de la régulation numérique qui a travaillé sur le sujet avec, je crois qu'ils ont travaillé avec une grande école, je ne sais plus laquelle, pour essayer d'identifier la bonne méthode pour identifier l'âge des utilisateurs. Alors, ils ont fait un listing complet avec... du point de vue de la plateforme, de l'utilisateur et de l'efficacité, les différentes solutions possibles. Donc il y a le contrôle de carte bancaire, contrôle par un bureau de tabac, l'utilisation d'une base de données nationale, le contrôle d'une pièce d'identité d'une photo, un service de garantie de l'identité numérique, le contrôle parental, le profilage social, chaud celui-là, l'utilisation de données biométriques et l'autodéclaration. Donc l'autodéclaration, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est pratique pour les plateformes, pour les utilisateurs, mais ce n'est pas efficace. Simple. L'utilisation de données biométriques, c'est pratique, c'est pas très compliqué à implémenter pour les plateformes. C'est mauvais pour les utilisateurs, c'est pas efficace. Parce que c'est pas performant, c'est fraudable, etc. Le profilage social basé sur le contenu, alors là, celui-là, j'ose pas imaginer, c'est pourri sur tous les plans, c'est juste commode pour l'utilisateur. Vu que c'est automatique, il n'y aurait pas à se prendre la tête. Le contrôle parental, il y a des problèmes d'efficacité, enfin de performance pour l'efficacité, donc c'est son seul défaut. Après, il y a les autres solutions. Alors moi, je trouve ça très rigolo, le contrôle de carte bancaire, sachant qu'en France, ben, les cartes bancaires sont accessibles aux mineurs, et les banques n'indiquent pas officiellement l'âge du porteur de la carte. Et le contrôle par un bureau de tabac me fait aussi beaucoup rire. J'imagine beaucoup les utilisateurs aller dans un bureau de tabac pour demander un ticket porno. Ça... C'est franco-français, hein, là, comme solution, je trouve. C'est assez mignon, celle-là. Mais du coup, aucune de ces solutions n'est réellement satisfaisante. Alors, ce qui est proposé par le par ce pôle le pérenne, ce qui est proposé, c'est une solution avec deux tiers de confiance. Et donc, l'idée, c'est que l'utilisateur va choisir une plateforme de vérification d'âge. Donc, il y en aurait plusieurs, possiblement. Il va fournir à cette plateforme une preuve de son âge. Et dans son navigateur web, avec une extension ou alors avec quelque chose de manuel à faire à chaque connexion sur un site, dans son navigateur web, il aura une extension qui sera capable d'aller demander à ce vérificateur d'âge une preuve. Et lorsqu'il se connecte sur un des sites, verrouillé comme ça, l'extension fournit la preuve. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, selon comment c'est implémenté, ça peut être une bonne solution ou pas. Il faudrait aussi que ce soit open source. Alors, là, ils ont dit que le code devrait être open source. C'est pas suffisant à mes yeux. Et donc là, il y a un démonstrateur qui a été réalisé en partenariat avec l'École Polytechnique et le PERENNE et la CNIL. Donc, à suivre, le démonstrateur pourrait être rendu disponible fin mai. Donc ça promet d'être quand même assez intéressant à voir d'un point de vue technique et respect de la vie privée. Affaire à suivre, on en reparlera sur cette antenne. On va écouter un deuxième morceau de musique et on retrouvera un petit pot-pourri de l'actualité juste après. On va écouter Marsupial de Laurence Danova, toujours sur Radio Campus 106,6 quand l'émetteur reviendra, sur la radio numérique terrestre et sur campuslille.com.
to you. Ooh, baby, sleep within me, baby.
C'était Marsupial de Laurence Danova, toujours sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com. Vous écoutez les côtés de nous. Et c'est la dernière partie des actualités. On va vous faire un petit pot pourri, un petit peu de trucs divers et variés que j'ai vu passer ces dernières semaines. Alors, il y a une petite actualité qui m'a fait beaucoup rire c'est passé, c'est aux États-Unis. Donc, c'est un. Alors, je ne sais plus de quel site cette personne était journaliste. Aux États-Unis. C'est sur le site The Verge. Donc aux États-Unis, Apple a lancé des kits pour faire des réparations en do it yourself. Alors, do it yourself. Donc, c'est-à-dire, faites-le vous-même. Ça sous-entend, en général, vous prenez votre outillage classique et vous faites quelque chose, vous fabriquez un objet, vous réparez un objet, dans notre cas ici. Et donc, le fait que Apple lance des réparations do-it-yourself pour ces appareils-là, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc là, il y a un journaliste qui s'est dit, tiens, et je vais essayer, ma batterie, elle marche plus bien, et ben, sachant que c'est l'un des éléments qui va le plus souvent foirer sur un téléphone portable, ça va être l'écran, parce qu'il se prend tous les coups, ou la batterie, parce que c'est l'une des pièces, c'est la pièce avec la chimie qui va s'user. Et donc le journaliste s'est dit, je vais le faire. Et il a reçu le kit de réparation do it yourself. Le kit faisait presque 40 kilos. C'était livré sous forme de deux énormes valises, avec un outillage de précision, un manuel hyper compliqué, et en fait, c'est le même outillage que ce que les techniciens dans les ateliers ou les usines d'Apple vont utiliser. Donc ce n'est pas du tout du do-it-yourself, c'est du prenez le matériel. Enfin, on vous envoie tout notre matériel. Alors, c'est en plus avec un coût qui est non négligeable. Donc le prix, là pour un remplacement de batterie, $69 pour la batterie. $49 pour louer les outils pour une semaine. Et $1200 de caution, des fois que les outils n'étaient pas renvoyés sous les 7 jours. Apple offre, bien gentil, l'envoi des outils. Alors, ce qui est aussi un peu intriguant, parce que envoyer 40 kilos d'outils, là, c'est pas un colissimo à 1€. Clairement, ça va coûter plus cher que ça. Ce genre de colis, ça serait pas étonnant que ça coûte plus de $100 à envoyer, à récupérer derrière, puisque Apple prend en charge la récupération des outils. Du coup, c'est quoi la logique ? Ah oui, dans les Apple Store, le remplacement de la batterie, il peut être fait par Apple, et il est facturé $69, le prix de la batterie dans cette réparation do it yourself. Moi, j'essaye de comprendre la logique derrière ça. Mais pour moi, la seule raison pour laquelle ils pourraient faire ça, c'est juste pour décourager les gens, pour leur faire croire que c'est compliqué. C'est compliqué tout ça, arrêtez de vouloir, faites-le pas vous-même. Laissez faire les pros, ça vous coûtera moins cher et c'est plus simple. Et c'est là le. Alors, soit c'est pour se foutre de la gueule du monde en disant mais regardez, on fait de la réparation du do-it-yourself, on aide les gens à le faire eux-mêmes. Soit c'est pour écœurer les gens et leur dire mais non, il n'y a pas besoin, c'est quelque chose de trop compliqué pour le laisser à des petites gens. Voyons, laissons faire les professionnels, c'est toujours ça le plus important. Donc, pour l'instant, ces kits-là ne sont pas disponibles en Europe, on verra. Et je rappelle qu'il existe encore, de nos jours, des téléphones portables que l'on peut ouvrir pour enlever et remplacer la batterie. Ça se trouve. C'est compliqué, mais ça existe. Par contre, effectivement, ce n'est pas un iPhone 25 avec une caméra de 50 mégapixels et un écran de résolution que vous pouvez même pas voir entre les pixels tellement c'est petit. Ça, on s'en fout. C'est pas le but. Bref. À suivre là-dessus. J'espère que ça arrivera en Europe, juste pour rire un petit peu sur la façon dont ce sera proposé. En autre brève, on a la loi sur le contrôle parental qui est passée. Qui n'a pas été bloquée par la Commission européenne. La Commission européenne avait jusqu'au 23 mai pour bloquer la loi, en disant non, ce n'est pas conforme avec le droit européen. Excusez-moi. Et donc là, maintenant, la dernière étape qui reste, c'est l'édition des décrets d'application, donc pour l'imposition du contrôle parental. Rappel, il s'agit de mettre un contrôle parental sur tous les écrans connectés permettant d'aller sur Internet. Tous. Tout ce qui permet d'accéder à des services et contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Donc, ça concerne ordinateur, smartphone, tablette, montre, console de jeu, et probablement des tas d'autres trucs, parce que moi je comprends pas que là-dedans on n'ait pas mis voiture, parce que des voitures permettent d'aller sur Internet. Et du coup, tous ces appareils-là, qu'ils soient neufs ou reconditionnés, et ça c'est le pire, qu'ils soient neufs ou reconditionnés, devront être vendus avec un contrôle parental. Moi, je vais aller m'empresser, tout à l'heure, là, sur la route, je vais m'empresser de vérifier dans ma voiture si sur l'ordinateur de bord, j'ai pas un navigateur web, auquel cas, je ne pourrai pas revendre la voiture. Le jour où je voudrais la revendre. Ça serait amusant, dis donc. Les seules machines épargnées sont les PC vendus sans système d'exploitation. Et donc là, le décret, ça indiquera notamment les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques requises, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter son utilisation. Donc on saura si c'est basé sur une liste noire ou une liste blanche, si on demande une intelligence artificielle qui le détectera automatiquement, qui voudra lire le... ils sont capables de demander à ce que ça vérifie le contenu de la page plutôt que juste l'URL, qui sait. On verra, mais ça va être assez amusant. Et surtout, je rappelle, ça ne sera valable qu'en France. Donc si vous allez acheter une machine en Belgique et que vous l'importez en France sans mettre de contrôle parental, elle sera vendue sans contrôle parental en Belgique, mais en France, elle sera interdite à la vente. Ça va être magnifique. J'ai pas idée de comment ça va être implémenté, du coup. Mais ça va être le chaos. Et le pire, c'est que aussi, j'ai demandé à quelqu'un que je connais qui travaille chez un reconditionneur de téléphone portable, ils étaient pas au courant qu'il y avait cette connerie qui allait passer. Donc, affaire à suivre, ça va être très très amusant. On va se réécouter un morceau de musique un petit peu plus court et on va juste après faire une petite dégeekalisation. Donc on va s'écouter See the Sun Explode de Fresh Body Shop, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. A tout de suite. c'était See the Sun Explode de Fresh Body Shop, toujours sur Radio Campus 106,6, campuslille.com et la radio du Mérite Terrestre. C'est terminé, oh, c'est toujours les collègues nous, et nous en avons terminé avec les actualités. On va juste se faire en vitesse une petite rubrique dégeekalisation. On va parler d'un petit sujet. Alors, je préfère avoir Alexandre pour lire les titres, parce que à chaque fois, je m'amuse à lui faire des titres à la con. Donc là, celui de cette semaine, c'est REFS, ZFS, BTRFS et BKHFS, c'est si compliqué. Et donc, l'objectif de cette petite dégeekalisation, c'est d'expliquer un petit peu, c'est quelque chose que l'utilisateur lambda ne voit pas, mais qui est pourtant indispensable sur notre ordinateur, c'est les systèmes de fichiers. J'ai déjà expliqué un petit peu dans des anciennes chroniques de dégeekalisation, il faudrait que je fasse la liste à l'occasion d'ailleurs des sujets qui ont été abordés comme ça. Donc, le système de fichiers, c'est ce qui permet d'organiser, de passer d'un espace de stockage, on va dire, linéaire en octet, donc le disque dur, la clé USB, la carte mémoire. C'est un stockage qui va de 0 à X milliards d'octets. Et le système de fichiers permet de savoir, ce fichier, il est à tel endroit. Ce dossier, il contient ces fichiers-là, et ils sont à tels endroits sur le disque. Le système de fichiers, c'est ça, en fait. C'est ce qui détermine, imaginons le stockage, c'est d'un livre, le système de fichiers, c'est le fait que, au début, vous avez un sommaire, et puis à la fin, vous avez un index. Et puis, si vous voulez savoir où est tel chapitre, donc le fichier, eh bien, vous regardez votre sommaire, ou selon ce que vous cherchez, vous pouvez aussi passer par l'index. Un système de fichiers, c'est ça. Mais, il y a eu des tas d'évolutions dans le temps. Si on regarde les plus vieilles antiquités, il n'y avait pas la notion de dossier dans un système de fichiers. Tout était à plat, il n'y avait pas de dossier, c'était tous les fichiers tous ensemble, il y avait tous égaux. Ça marche, hein, ça marchait en tout cas à l'époque, par rapport à la quantité de données qu'on a maintenant. Heureusement que ça ne se fait plus. Mais du coup, il y a eu des évolutions dans le temps. On a eu la famille des systèmes de fichiers FAT, chez Microsoft. Ensuite, on a eu NTFS. Sur Linux, on a eu EXT, EXT2, 3, 4, XFS, JFS, j'en passe et des meilleurs. On a eu d'autres variantes du UFS chez des ensembles de systèmes BSD. On a le APFS, je crois, maintenant chez Apple. Et avant, c'était le HFS et le HFS+. Mais déjà, on n'entend pas trop parler de nouveautés là-dessus, globalement, à part chez les cercles spécialisés. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les dernières sorties sont un peu des trucs de niche. Et la peinture, elle colle un peu, quoi. La peinture, elle est pas fraîche. Enfin, pardon, la peinture, ça dégouline, quoi. Ça a été peint, mais ça ne tient pas. Il y a du scotch à différents endroits et ça donne pas confiance, surtout pour stocker des données. Le stockage des données, c'est le truc le plus sensible. Et c'est peut-être déjà ce par quoi j'ai commencé. C'est un domaine où la moindre évolution, le moindre changement, mais les développeurs marchent sur des œufs, mais ils ont les jetons. Parce que le gros problème, quand on fait un changement, mettons, vous êtes un développeur et vous faites un changement sur un pilote de carte réseau. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Ah ben l'utilisateur, ça marchait pas après la mise à jour. C'est très chiant, c'est pénible pour l'utilisateur, c'est mauvais. Mais ça va. Ah zut, l'utilisateur il a perdu toutes ses données après la mise à jour. Bon bah tant pis, ça marche pas bien. Ça par contre, modifier un système de fichiers, du coup, c'en est extrêmement compliqué. Et introduire des nouveautés, des nouveaux systèmes de fichiers, c'est encore plus compliqué. On a Microsoft qui s'y est tenté, donc avec... Alors, je me souviens plus le nom que ça avait lors du projet d'avant Windows Vista. J'ai un petit trou de mémoire pour le coup. Mais c'est un petit peu revenu sur le tapis avec leur projet REFS, qui finalement, au début, ils ont dit « Ouais, ça va être révolutionnaire, ça va tout remplacer. » Puis finalement, ça remplace sur un marché de niche, mais vraiment hyper limité. À tel point que personne ne peut l'utiliser quasiment. On a ZFS qui est sorti, qui a été un mini phénomène dans le domaine des administrateurs système, qui est sorti de la première moitié des années 2000, ce qui a inspiré d'ailleurs beaucoup d'autres évolutions comme REFS, BTRFS et autres. On a BTRFS qui est sorti dans la deuxième moitié des années 2000 sous Linux, qui a mis 5 à 10 ans avant d'être considéré comme stable sous Linux, et qui encore aujourd'hui, beaucoup de gens y vont à reculons parce que s'il y a celle-là, en fait, celle-là, elle marche pas si bien que ça. Ah ben là, ils ont réussi à améliorer les performances de 10 ou 20%. Tu fais, ah ouais, mais quand même, ça veut dire que c'était plus lent de 10 à 20% par rapport aux autres systèmes. Oui. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on cherche encore à faire évoluer le système de fichiers? Parce que c'est vrai, on a plus une augmentation aussi massive des tailles de stockage qu'avant. Quel est le besoin? Mais au final, il y a des vrais besoins qui apparaissent, notamment la possibilité de faire ce qu'on appelle des snapshots. Et ça, c'est l'indispensable si vous voulez pouvoir faire des sauvegardes sereinement sur votre machine. C'est la possibilité de faire un snapshot, c'est-à-dire des instantanés. Vous avez, mettons, je vais prendre un ordinateur Linux, vous avez votre dossier personnel, et puis tous les jours, votre ordinateur pourrait faire un snapshot, c'est-à-dire une copie, mais vraiment une photo, et à chaque fois que derrière vous faites d'autres modifications dans votre dossier, et ça ne modifie pas l'original, ça liste juste les changements qui ont été faits par-dessus ça. Et ça, ce genre de fonctionnalité-là, par contre, sur un poste de travail, ou même sur un téléphone portable, c'est fantastique, puisque c'est la promesse de jamais perdre des données. Par contre, c'est une catastrophe pour dire, alors ouais, mais qu'est-ce qui prend de la place sur ma machine? Parce que ça veut dire que si vous supprimez un fichier, vous avez libéré 0 octet, puisque le fichier, il est encore dans les anciens instantanés. Donc ça complique beaucoup cet aspect-là, malheureusement. Mais ce genre de fonctionnalité est extrêmement intéressante. Et malheureusement, aujourd'hui, pour disposer de ça partout, c'est pas compliqué, c'est hyper compliqué sa race. Microsoft n'y arrive pas. Microsoft n'arrive pas à imposer ça sur Windows, c'est-à-dire sur une plateforme qu'ils maîtrisent de A à Z, avec leurs équipes de développement qui sont immenses, avec leurs moyens financiers, ils n'ont pas réussi à imposer partout et sereinement, ils n'ont pas réussi à se dire on va faire ce changement-là pour le meilleur parce que ça va améliorer les choses pour tout le monde. Ils ne peuvent pas, ils sont bloqués. Apple ne le fait pas non plus. Apple a introduit des changements avec son APFS, mais c'est assez frileux et surtout c'est des changements qui les ont intéressés. Ils avaient un énorme retard. Ils ont rattrapé ce retard, mais ils n'ont pas un système hyper moderne de ce que j'en comprends en tout cas. Sous Linux, BTRFS, je peux pas dire que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Alors, on a déjà quelqu'un qui est en train d'essayer de faire une nouveauté, un nouveau système de fichiers qui s'appelle BcacheFS. Alors, je ne juge pas, je n'ai pas encore pu l'essayer, je l'essaierai peut-être à l'occasion, mais là aussi, c'est un problème. Comment je fais pour essayer? Comment essayer quelque chose en se disant, ouais, mais si ça foire, je perds toutes mes données. Mince alors. Comment qu'on fait? Et c'est un sujet qui est du coup extrêmement compliqué. L'un des seuls qui soit sorti, du coup, j'en ai parlé pendant quelques secondes, ZFS, alors lui, certains vont dire, oui, c'est le Graal. Alors, les certains en question, c'est vraiment, on parle d'administrateur système, on ne parle pas d'utilisateur lambda. Et à ma connaissance, aucune distribution Linux n'utilise ça comme système par défaut. Parce que ZFS a 2-3 des inconvénients techniques acceptables, mais il a surtout un inconvénient légal majeur, c'est qu'il est sous une licence volontairement incompatible avec le noyau Linux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. C'est interdit. Vous pouvez essayer de le préinstaller, mais c'est litigieux comme choix. Et du coup, y a des tas de problèmes de compatibilité qui apparaissent avec le noyau Linux régulièrement. Ça ne marche plus comme ça, pour se marrer. Alors, j'aimerais bien que demain, on ait enfin un nouveau système de fichiers, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes et qui manquent aujourd'hui. Donc j'ai parlé des instantanés. Je pourrais parler aussi d'une gestion plus simple et plus sereine du fait d'avoir les données répliquées sur plusieurs disques en même temps. Parce qu'aujourd'hui, on a des tas de solutions, que ce soit sous Linux ou sous Windows, pour faire ça, mais ces nouveaux systèmes ont des avantages. Ils permettent de faire certaines choses que les anciens systèmes ne savaient pas faire. Donc pourquoi pas? C'est un peu mieux. L'un des autres intérêts aussi, et ça c'est quelque chose qui a été ajouté finalement assez récemment, alors que c'est un problème qui est hyper vieux, c'est lutter contre le bitrot. Et je m'arrêterai avec ça, puisque moi c'est un point sur lequel j'ai été sensibilisé par la pratique, puisque je me suis rendu compte de moi-même. J'ai voulu récupérer des données. Alors, j'ai eu deux cas de bitrot. J'en ai eu un majeur et un mineur. On va commencer par le cas mineur. Moi, les DVD que j'aime bien, je les ai copiés sur mes disques durs de stockage. Comme ça, je peux visionner les films sans avoir à aller rechercher le disque. Et je me suis rendu compte, une fois, que tiens, il y a ce film-là, quand je le lance, au bout d'un moment, paf, mais toujours au même endroit, tout pile, les logiciels plantent. Ils s'arrêtent. Ils arrêtent la lecture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bit ou un octet qui a sauté dans le fichier, sans que je l'ai modifié. C'est le fichier était stocké sur le disque dur, et dans le temps, eh ben, les données se sont corrompues. Et c'est un vrai phénomène. C'est pas une blague, c'est quelque chose qui se produit vraiment. Les données sur le disque dur, ça reste du stockage physique. C'est de la même façon que quand on écrit quelque chose au feutre, eh ben, le feutre, dans le temps, avec la lumière, avec le temps, les choses sont altérées. Et ben, un disque dur, c'est pareil, ce n'est pas dans une chambre isolée du temps, donc ça va bouger. C'est fait pour ne pas bouger, mais sur des milliards de bits écrits, et ben, il va y en avoir un qui va sauter. Et mon pire cas, ça a été sur un téléphone portable, sur un vieux Nokia N950. J'ai voulu aller récupérer des vieilles photos, et les photos sont illisibles. La puce mémoire est morte. En fait, les données sont quasiment toutes corrompues. Toutes. C'est une hécatombe. Parce que la puce mémoire est moins protégée qu'un disque dur. Et donc, avec le temps, avec tous les phénomènes électromagnétiques qu'il peut y avoir, les données ont été détruites. Donc là-dessus, les systèmes de fichiers modernes pourrait protéger de ça, mais malheureusement aujourd'hui on ne peut pas en utiliser, et ça c'est le vrai drame. Et j'espère du coup pouvoir dans un an, deux, plutôt quatre ou cinq, annoncer que ça y est, sous Linux on a enfin une solution que tout le monde peut utiliser sans problème de performance et qui règle ce problème. C'était la déquicalisation de ce numéro 236 de l'Écho des Gnous. On se retrouve, j'espère, à deux, parce que quand même, tout seul, c'est un peu chiant, dans deux semaines pour le numéro 237. D'ici là, je vous souhaite tout simplement une bonne fin de week-end, une bonne semaine, amusez-vous bien, et puis on se retrouve bientôt. J'ai pas d'agenda en particulier à faire, n'oubliez pas, il y a toujours des appels aux dons de Radio Campus, il me semble, pour réparer leur émetteur, parce que quand même, sur 106.6, c'était mieux. Bref, une bonne soirée à tous, amusez-vous bien, bye bye.
L'Écho des Gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur.